Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans. Et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, c'est une interview et je vais être accompagnée de Priscilla Lenoir. Priscilla, j'ai voulu l'inviter parce que ça fait un moment en fait qu'on se connaît. On se connaît depuis que je suis toute petite et on s'est retrouvés un petit peu par hasard sur LinkedIn. Et c'était important pour moi de l'interviewer ici, dans Feedback, concernant la prise de parole en public. Priscilla, c'est une ancienne commerciale, chef des ventes, responsable commerciale, et c'est un sujet qu'elle aborde régulièrement dans ses posts sur LinkedIn. Et je sais combien la prise de parole peut faire peur à beaucoup de personnes qui m'écoutent. Et pour moi, Priscilla était la meilleure personne pour nous détailler tout ce qu'il y avait derrière la prise de parole et comment est-ce qu'on peut surmonter ça pour oser prendre la parole et avoir beaucoup plus d'impact dans son environnement professionnel. C'est une interview passionnante où elle nous partage tout un tas de choses qui peuvent se passer dans notre cerveau et je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Je te laisse donc avec notre échange et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Priscilla, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Feedback et d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Alors, les auditeurs ne connaissent pas forcément l'histoire qui est entre nous.
Non.
Parce qu'on se connaît depuis très, très, très longtemps, puisque tu m'as connue, j'étais toute petite.
C'est ça.
Enfin, je crois que je devais avoir 8 ans ou 6 ans. Et les aléas de la vie ont fait qu'on s'est retrouvés sur LinkedIn il y a quelques mois et à avoir des parcours un petit peu similaires. Donc, comme quoi les aléas de la vie sont parfois rigolos. Et du coup, comme on a des sujets en commun, ça me tenait à cœur de t'interviewer ici sur le podcast. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à partager. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous présenter un peu ton parcours professionnel, ce que tu fais en ce moment? Voilà, raconte-nous un petit peu ta vie professionnelle jusqu'à maintenant.
Alors, Priscilla, j'ai une vie professionnelle passionnante dans les métiers justement du management, où j'ai fait tout mon parcours. J'ai démarré à l'issue d'un DUG en droit où j'avais à cœur de défendre la veuve et l'orphelin. C'était une vraie conviction. Bon, manifestement, j'étais moins faite pour le cadre de la fac que pour vraiment défendre une cause, ça c'est clair. Et j'ai bifurqué, grâce aussi à des opportunités de travail, j'ai bifurqué dans le monde du commerce. Et très rapidement, j'ai démarré comme responsable de rayon, dans un grand magasin au printemps, en région parisienne. Et j'ai plus quitté le commerce parce que j'ai énormément aimé, alors je vais être honnête, pas forcément vendre un produit, clairement, mais travailler avec les équipes et les animer, les encourager, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnaient pour arriver, elles, à vendre. Alors en plus, on parle d'une époque où il y avait des démonstratrices au printemps. Moi, j'étais subjuguée par leur manière de vendre et à la fois des dames d'un certain âge, quand moi j'avais 23 ans, à qui il fallait que je rappelle de 3 règles la polyvalence par exemple. J'ai eu une excellente école dès le départ au printemps et après j'ai tout le temps changé d'enseigne, enfin pas tout le temps changé d'enseigne mais j'ai régulièrement changé d'enseigne pour pouvoir évoluer et sur les cultures d'entreprise et puis sur les pratiques aussi managériales puisque j'ai eu de nombreuses équipes très variées, très différentes de tous âges. Femmes, hommes, des jeunes, des moins jeunes, et puis essentiellement dans le textile. Par contre, ça s'est vraiment resté dans ce type de produit. J'ai finalement évolué sur des postes de directrice de région, sur d'autres enseignes, dont notamment une enseigne de lingerie très, très connue, Rouge Gorge, que j'ai adorée. Et j'y suis restée quasiment 13 ans, parce que j'y ai trouvé à ce moment-là un vrai équilibre pro-perso. Et pourquoi c'est important cet équilibre pro-perso? Parce que au moment où j'arrive chez Rouge Gorge et où je suis cooptée par une ancienne de mes collègues d'une autre enseigne, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Et en l'occurrence, je suis régionale, je dois prendre la route, partir à droite à gauche, énormément de déplacements. Et là, l'équilibre pro-perso, il n'est pas facile à trouver. C'est un métier très prenant, on est en permanence sur la route, on a des horaires extensibles. On est souvent en déplacement, c'est-à-dire à l'hôtel, parce que effectivement c'est pas proche, ou parce qu'on est en réunion au siège. Le siège était à Lille, donc voilà. Donc ça, cet équilibre a été important pour moi. J'ai réussi à le trouver dans cette enseigne qui justement a su faire aussi la part des choses par rapport à ce besoin. Comme en plus très rapidement, je me suis retrouvée seule avec ma petite fille. Ça a rajouté dans ce beau parcours et ces belles envies une complexité à gérer encore. Je dirais pas que c'était simple. Il a fallu s'accrocher, mais j'aimais tellement mon métier, j'aimais tellement cette enseigne, mes équipes, et il était tellement important pour moi de continuer à faire ce que j'aimais parce que forcément ça allait résonner pour ma fille, ça allait rayonner évidemment sur elle. Ça, j'en étais intimement convaincue. C'était une forme d'intuition de toute façon. Donc c'est pour ça que je me suis accrochée, je me suis organisée. Alors là, j'avais 12 vies évidemment, et là c'est là où on se structure beaucoup. Et surtout, ce que j'ai pu apprendre grâce à ça, donc là, on va dire que j'y suis restée 10 ans dans cette situation avec ma fille seule et ce beau métier de distance et de déplacement, c'est qu'on apprend justement à bien s'organiser et à bien séquencer. Il y a le travail, schématiquement, on va dire, de 8h à 20h ou allez, à 19h. Et puis, il y a la vie perso avec ma fille. Et ça devenait des bulles, voilà, des bulles très, très fortement préservées. Donc, je ne travaillais pas le soir en rentrant, je ne travaillais pas le week-end. J'étais 100% consacrée à elle. Et si j'avais du travail en retard, puisque quand on a 3-4 heures de route dans la journée, on ne peut pas faire tout ce qu'on doit faire par rapport à tout ce qui est attendu, que ce soit des services du siège, que ce soit des magasins, parce que j'en avais une vingtaine à gérer, autant de responsables de magasins, autant de conseillères de vente, autant de problématiques, de questions, de besoins, de... Enfin bref, et en l'occurrence, moi je suis matinale, donc c'était pas grave, si j'avais du retard, je me levais plus tôt le matin. Et ça, du coup, n'impactait pas du tout sur ma fille, par exemple.
Alors, je suis désolée, parce que du coup, j'ai plein de questions qui me viennent dans tout ce que tu as décrit. Avant d'aborder les autres questions qui étaient prévues, ouais. Je sais qu'il y a des mamans qui nous écoutent.
Ouais.
Il y a peut-être des mamans qui sont solo. Ok, tu parles d'organisation, tu parles de séquençage, mais comment tu as fait pour mettre ça en place? Comment tu as fait pour le faire comprendre aussi à ta direction? Comment tu t'es organisée? Voilà, comment tu faisais pour trouver cet équilibre vie pro, vie perso? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les personnes, et plus particulièrement par les mamans, et je crois encore plus par les mamans solo. Donc voilà, comment tu as pu mettre ça en place? Comment tu as pu le faire comprendre aux autres? Voilà, parle-nous un peu de tout ça avant qu'on enchaîne sur le reste. C'était pas forcément prévu, mais j'en profite. Vas-y.
Oui. Mais c'est important, t'as raison, puisque en l'occurrence, il y en a quand même beaucoup qui sont dans cette situation et qu'il faut pas baisser les bras et qu'il y a des solutions. Alors, il y a des solutions de garde. Ça, évidemment, il fallait bien que j'en trouve. Mais au-delà de ça, c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se dire, je ne suis pas, je ne l'accompagne pas à l'école, je ne vais pas la chercher à 5h. Elle mange à la cantine. Mais ça, du coup, c'est d'abord le premier point, c'est à être au clair avec ça dans sa tête. Et on est au clair avec ça dans sa tête parce que on se dit parce que d'abord, on répond à un besoin qui est propre à soi, qui est de s'épanouir aussi. Et ça, c'est important. Parce que je le redis, si je suis épanouie, ma fille le sera. Donc, il y a un vase communicant qui permet quand même de lever ce verrou-là, de se dire, oh my God, je ne suis pas présente à tous les moments de sa vie. Et puis, justement, non, puisque les enfants, ils ont aussi besoin de s'émanciper, et de découvrir la vie aussi. Après, il n'y a pas la question de se dire, bah oui, mais t'es jamais là, tu fais pas le job et c'est pas bien. Là, c'est pour ça que je dis, ça, c'est très mental. Ce qui est bien, c'est ce que je décide de ce qui est bien. Voilà. Et moi, je décide que, puisqu'elle va à l'école, puisqu'elle est nourrie, puisque j'ai une solution de garde, même si cette solution me coûte et que du coup, je gagne moins d'argent, ça n'est pas grave, puisque ça n'est pas ça ma priorité, qu'à partir du moment où ça s'est cadré et qu'elle va bien et que quand je suis là, par contre, je suis 100% avec elle, alors on est OK. Et je suis OK avec ça mentalement. Et après, il y a eu le chemin organisationnel en termes de métier, où là, alors clairement, ça s'est pas fait du tout en un jour et en une année. Hein. J'ai testé beaucoup de modes d'organisation, à quelle heure je pars, à quelle heure je rentre, mes tournées, comment je les organise, en fonction justement de ce qui est prévu par rapport à ma fille en termes d'organisation. Voilà, justement, ben, une fois que j'avais quelques années quand même rodées, c'est là que je me suis dit, mais moi, je suis du matin, donc je me préfère rentrer à 7 heures, m'occuper d'elle, ne pas travailler ensuite et me lever plus tôt le matin. Voilà, mais j'ai testé plusieurs choses. Ce qui m'a permis de tester clairement, c'est la patience à ce moment-là de mon employeur. Et c'est là aussi où, du coup, ben, l'entreprise ensuite, elle a un rôle clé. Forcément, si j'avais pas eu une entreprise, N+1, N+2, N+3 compréhensif, en tout cas qui nous laissait faire, qui considérait que moi, sur mon poste de directrice régionale, j'étais suffisamment autonome pour gérer mon temps. Effectivement, j'aurais certainement eu d'autres difficultés. Donc, c'est tripartite l'affaire. Hein. Il y a l'entreprise, il y a l'enfant et puis il y a soi.
Ok, super. Merci beaucoup du partage d'expérience parce que je suis sûre que ça peut aider beaucoup de personnes. Et j'aime beaucoup le fait que tu mettes en avant que ça se passe d'abord par la tête, en arrêtant de culpabiliser peut-être de beaucoup de choses, en arrêtant peut-être de se flageller en se disant « je suis une mauvaise mère si je fais pas ci, si je fais pas ça », et de repositionner du coup aussi ton besoin. Comme tu dis, si tu t'accomplis professionnellement, ça aura forcément un impact aussi personnellement sur ta fille. Le meilleur moyen pour que son enfant soit heureux, c'est que les parents soient heureux. Donc, je trouve ça hyper important que tu rappelles tout ça. Donc, merci beaucoup pour ton partage. C'était pas prévu, forcément, mais merci beaucoup. Du coup, si on en vient aujourd'hui, maintenant, à ce que tu fais, à l'activité que tu as, nous, c'est vrai que le cadre de ce podcast va être autour de la prise de parole. J'aimerais juste, du coup, que tu nous expliques, voilà, comment tu es arrivée à développer cette activité-là? Pourquoi cet axe-là? Alors, c'est un axe parmi tant d'autres hein, chez toi. C'est celui-là qu'on va mettre en avant aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Voilà, si tu nous parles un peu de ça, avant qu'on puisse enchaîner sur les questions sur la prise de parole derrière.
Alors, il y avait deux raisons. La première, c'est parce que qui m'ont convaincue de faire de la prise de parole en public une brique de mon activité, c'est parce que justement au cours de mon expérience professionnelle en qualité d'animatrice d'équipe, j'ai eu à prendre souvent la parole, forcément. J'ai eu à mener beaucoup de réunions, des séminaires, au niveau du siège aussi, en réunion avec mes collègues ou avec les différents services du siège. Bref, on est tout le temps en train de devoir prendre la parole devant une assemblée. Qu'elle soit connue, qu'elle soit pas connue. Je demandais aussi justement à mes responsables de magasin de s'exprimer, de prendre la parole, d'animer des réunions d'équipe. Et effectivement, c'était souvent une vraie difficulté. Et pour plusieurs raisons qu'on va évoquer, mais c'était à chaque fois un exercice difficile pour la plupart, ou des équipes que j'animais, ou même de certaines de mes collègues. Donc ça m'a fait tilt. Ensuite, je me suis dit, et j'ai observé que clairement, il y avait une vraie inégalité dans la prise de parole entre mes collègues masculins et mes collègues féminines. Donc ça m'a fait tilt aussi. Et ça, c'est venu évidemment titiller ma fibre féministe très engagée et très affirmée. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Non pas que je sois, qu'on ait à les jalouser, mais plutôt à s'intéresser de pourquoi eux, c'est si facile et pourquoi nous, c'est si difficile. Voilà, et comme dans le milieu professionnel, on est tout le temps en train de devoir prendre la parole devant donc ce public plus ou moins inconnu. On démarre par un entretien d'embauche, on peut avoir aussi besoin de prendre la parole pour faire ne serait-ce qu'une demande d'augmentation et d'évolution professionnelle. Pour un dirigeant, une dirigeante vont devoir prendre la parole pour diriger leur entreprise, les managers pour animer leur équipe. Quand on a des gestions de conflits, quand on doit convaincre des partenaires commerciaux, enfin, dans le milieu professionnel, en permanence, on doit prendre la parole. C'est un acte qui est systématique, qui est fort, qui est inégal. Donc, je me suis intéressée au pourquoi et au comment, du coup, le résoudre. Alors, en partie, évidemment, d'où l'activité.
C'est vrai que c'est très bien que tu aies évoqué le fait que la prise de parole est présente partout. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'elle est présente partout. Et tu vois, une de mes questions, c'était pourquoi c'est si important de savoir prendre la parole ? Mais effectivement, s'il y a des situations diverses et variées, à la fois professionnelles et personnelles, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça s'applique aussi, bien évidemment, à des aspects personnels, prêts à la banque, enfin, plein de choses, hein, convaincre de la négociation, etc. Du coup, qu'est-ce que tu as pu repérer comme difficulté, comment voilà, s'est passé un peu ton analyse de tout ça? Qu'est-ce que tu as pu repérer comme problème qu'il y avait sous la prise de parole? Raconte-nous un peu ce que tu as pu constater, un petit peu tout ça.
Alors du coup, j'ai fait une petite introspection sur ce sujet de devoir s'exprimer, de la prise de parole. Et donc, je suis retournée en enfance et je me suis dit, tiens, c'est vrai que cette prise de parole, elle démarre en fait très, 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 très tôt, c'est-à-dire tellement tôt que c'est la première chose quand un enfant naît qu'on attend de lui, qu'il crie.
C'est vrai. C'est vrai.
Pour être sûr que tout va bien. Et alors, du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, oui, en effet, quand on est bébé, on apprend deux choses qui sont fondamentales. On apprend à marcher et on apprend à parler. Donc, il y a ces premiers cris, ces petits gazouillis qu'on fait quand on est enfant. Enfin bref, en tout cas, on voit bien tout de suite, c'est le premier vecteur d'expression pour les enfants, enfin pour les bébés, par lequel notamment ils vont exprimer leurs émotions. Donc, je me suis dit, effectivement, ça, c'est le gazouillis. Puis après, effectivement, le fait est que dans la ville, et ces millions d'années plus tôt, on a développé le langage. Alors ça aussi, c'est intéressant, le langage, parce que il a été développé par nécessité de pouvoir communiquer entre humains. Et la nécessité de communiquer, c'est bien pour arriver à s'organiser et à vivre ensemble, pour pouvoir vivre ensemble. Donc, dès le départ, effectivement, il m'a semblé que cette nécessité de s'exprimer par la voix était un acte premier dans la sociabilisation. Ensuite, on se rend compte qu'une fois qu'on est parti, qu'on est sorti de cet état de bébé, effectivement, puis ça y est, on commence à apprendre le langage. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en grandissant, on se construit tous différemment en fonction de son environnement social, culturel, en fonction aussi de l'école, l'éducation qu'on reçoit, bien sûr ensuite de toutes les expériences que l'on vit. Alors on va se retrouver très très tôt, en réalité, à devoir parler en public. Et là, je parle de parler en public, donc il y a la notion d'expression. J'exprime, ça sort, des vocalises sortent, le langage s'apprend. Mais parler en public, ça arrive très très tôt finalement, parce que dès qu'on est petit, par exemple, dès qu'il y a des adultes qui viennent vous visiter à la maison, il faut venir dire bonjour à ces personnes inconnues, et puis qui sont grandes en plus. Et là, faut dire bonjour à tout le monde. Ah bon, d'accord. Après, à l'école, effectivement, il faut se présenter devant ses camarades. Il faut lever la main pour donner une bonne réponse devant tout le monde. Alors, pourvu que la réponse soit bonne, on en parlera après. Il faut faire sa première poésie devant une classe entière qui vous regarde. Ensuite, on passe au collège, où on va commencer ses premiers exposés devant ces mêmes classes, voire aussi faire d'autres choses qui sont pour tout le collège. Je pense à ma fille, par exemple, qui faisait un chant à chaque veille de vacances scolaires. On les invitait à chanter devant tout le collège. Donc là, il y avait ceux qui voulaient, mais OK. Quand on est au brevet, au bac, on doit préparer un sujet devant un jury à l'oral, etc. Mémoire ensuite, etc., etc. Jusqu'à cette vie professionnelle que j'ai évoquée plus tôt, premier entretien d'embauche, etc. Donc en fait, la prise de parole publique, c'est quand même très, très tôt. Et c'est tout au long de cette éducation, et ça c'est vrai, alors là effectivement je suis pas, j'ai pas fait les études scientifiques, mais on les retrouve de toute façon sur internet, on voit bien effectivement que ça va se cristalliser très vite sur la période adolescente, notamment dans cette période aussi collège, surtout par le jeu des hormones, où là cette prise de parole devient un enjeu, qui n'en était pas un jusque-là, mais dont on n'avait pas conscience en tout cas, mais là ça devient un enjeu. Et pour autant, cet enjeu, ça me rappelle, je vais revenir sur cet exemple de quand on est petit, parce que, par exemple, mon premier traumatisme à moi, je disais quand on est enfant et qu'on doit dire bonjour à tout le monde, mon premier traumatisme, c'était le soir quand il fallait aller se coucher et qu'on m'obligeait à dire bonne nuit à tout le monde. Oh, mais moi, je voulais juste aller me coucher. Et là, d'un coup, il faut faire tout le tour de tous ces gens adultes qui nous impressionnent, qui nous regardent comme ça. Et ça peut être traumatisant, on s'en rend pas compte. Alors, c'est pas malveillant. Il y a une volonté de politesse. Mais on se rend pas compte, en fait, de ce qu'on fait subir inconsciemment aux jeunes enfants.
Ton exemple est incroyable. Ton exemple est incroyable parce que tu vois, je m'attendais pas à ce que tu sortes ça. Moi, ça revient pas aussi loin, tu vois. Moi, j'ai plus des souvenirs d'école, de collège, etc. Ton exemple est quand même assez incroyable. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas conscience qu'il y avait de la prise de parole aussi tôt. Et c'est vrai, tu as raison, en fait. Enfin, là, le temps que t'as expliqué tout ça, moi, j'étais là en train de t'écouter et de, j'ai trouvé ça fascinant. Mais vas-y, continue. Mais c'est vrai que l'exemple que tu donnes est assez fou quand même.
Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, ça, moi, cet exemple que je vis, que j'ai vécu personnellement, que j'ai vu se reproduire ensuite avec d'autres enfants, évidemment, puisqu'on a tous à cœur d'être polis, mais on se doute pas effectivement de ce que ça va ou non faire germer comme blocage ou pas blocage d'ailleurs. Hein, on verra bien comment ça se développe après pour l'enfant. Et en classe, après, donc pour revenir sur ce moment où ça se cristallise, notamment au collège, sur cet âge ado qui est muet par les hormones en pleine action, là, effectivement, il y a ce passage en classe où on doit lever la main pour prendre la parole. Alors, on doit lever la main pour prendre la parole et idéalement pour donner la bonne réponse. Et ça, ça devient, à ce moment-là, ça devient un enjeu, ça devient un enjeu de courage, clairement, parce que, un, faut lever la main devant tout le monde, et deux, faut pas se louper, faut avoir la bonne réponse. Donc la pression, elle est énorme sur cette période de nos vies où on sait qu'on se regarde tous le nombril et donc le nombril de son voisin. Donc avec plus ou moins de hardiesse, je dirais, on arrive à surmonter ça ou pas. Mais, et c'est là effectivement où il peut y avoir la peur qui peut s'installer, c'est qu'effectivement c'est typiquement le genre de situation où, eh bien si au moment de cette prise de parole-là, on est taclé par le prof parce que c'est pas la bonne réponse, ou bien par ses camarades parce que justement on n'a pas dit ce qu'il fallait, etc. Alors ça va s'incrémenter très très fort dans la tête. On va l'associer tout de suite au fait qu'on a parlé devant tout le monde. Et il y a de fortes chances que, alors il faut que ça se reproduise hein, évidemment, mais on se renferme dans sa coquille. Et du coup, qu'on fasse un lien quasi immédiat entre parler devant du monde égale moquerie, c'est fini. Et c'est comme ça que cette peur de la prise de parole, elle commence à se construire. Et la peur de la prise de parole en public, c'est très intéressant, c'est fascinant, c'est quand même la plus commune, la plus courante des phobies sociales. Parfois, j'entends dire effectivement que cette peur vient avant la peur de la mort.
C'est vrai ?
Ben oui.
Ah, je savais pas.
Alors voilà, donc cette phobie, c'est la glossophobie, pour faire un petit peu de français.
Intellectuel.
Et alors, elle prend, elle se loge dans un tas de situations. C'est-à-dire que j'ai peur de prendre la parole parce que j'ai peur de rougir, j'ai peur de montrer mes émotions, j'ai peur de ne pas être écoutée, hein, clairement, de pas capter l'attention. J'ai peur de bafouiller. J'ai donc évidemment peur des trous de mémoire. J'ai peur de pas maîtriser mon sujet. J'ai peur de l'inconnu, de l'échec. J'ai peur donc du jugement. Et aussi, et ça c'est très important, et toujours dans cette période de l'adolescence, j'ai peur du regard des autres sur, non pas que qui je suis intérieurement, et donc des moqueries et du jugement, mais j'ai peur aussi du regard sur mon corps, mon physique. Donc ça c'est une autre phobie, mais qui est très importante parce que elle fait, en fait, ça va être un tout.
Oui, ça va être dans le même package qu'il y a dans la peur liée à la prise de parole.
Exactement. Donc en fin de compte, quand on revient à notre apprentissage quand on est bébé, où on sait que parler et marcher, c'est les deux choses qui s'apprennent tout de suite et qui s'apprennent en faisant, en pratiquant, l'une comme l'autre, effectivement, on comprend facilement que si l'une est mécanique, l'autre, effectivement, elle va être favorisée par tout un tas de facteurs extérieurs à soi et qui sont plus ou moins favorisés. Donc par la famille, par l'éducation, par tout ce qu'on peut rencontrer autour de soi. et qui va construire, du coup, sans qu'on le sache tout de suite quand on est petit et progressivement, ça va construire l'estime de soi. Et cette estime de soi, elle est donc, c'est pour ça que c'est important de parler des peurs qui sont la peur de ce que je peux être en tant que personne, mais de ce que je suis aussi en tant que physique, parce que l'estime de soi, c'est vraiment, c'est deux corps, c'est le corps physique et le corps intellectuel, spirituel, émotionnel. Et on se rend compte avec la prise de parole, donc, que quand on se sent bien dans son corps et dans sa tête, on a a priori une bonne estime de soi, donc, et donc on a suffisamment confiance en soi, du coup, pour pouvoir prendre plus aisément la parole que d'autres. Et à ce moment-là, on se rend compte que cette confiance en soi, qui est née de cette estime de soi, qui est née de ces facteurs favorables, avoir pris la parole en public parce que on n'a pas été ni moqué, ni machin, ni bidule, et qu'on a accepté aussi son corps physique, eh ben on s'autorise à s'exprimer, s'exprimer tout court, d'ailleurs, et puis s'exprimer tout haut, donc envers du public, vis-à-vis d'autres personnes. Et là, on s'autorise à exprimer une idée, une envie, un rêve, une opinion, une joie, des doutes, des peurs, des échecs, des réussites, tout.
Oui, moi j'adore, tu pourras en parler des heures, je crois, j'adore t'écouter là.
Mais moi aussi, parce que je trouve ça fascinant de me dire que sur un acte aussi simple, semble-t-il, au démarrage de nos vies d'enfants, que de s'exprimer et que de dire à regazou, bon papa, maman, il va en découler, en réalité, tout un fonctionnement, tout un système de confiance en soi, d'estime de soi, et qui va en fait être catalysé par la prise de parole en public. Et l'effet vertueux, effectivement, on le comprend très vite, c'est que à partir du moment où si je m'exprime, je gagne en confiance en moi et je gagne en estime de moi, plus je m'exprime et plus je gagne en confiance et plus je gagne en estime. Et inversement, effectivement, si dès le départ j'ai pas une estime de moi très développée parce que elle n'a pas été favorisée par des tas de situations, j'ai clairement pas suffisamment confiance en moi pour prendre la parole. Et moins je prends la parole, moins j'ai confiance en moi et plus je me désestime. Et là, on est dans le cercle vicieux.
Complètement. Ok, alors je laisse tous les auditeurs et auditrices assimiler tout ce que tu as dit, parce que tu as donné plein d'informations, d'exemples, etc. Donc oui, tu as cité toutes les peurs qu'il y avait derrière la prise de parole. Effectivement, il y en a plein, tu vois. Moi, je pensais à la peur du jugement, mais effectivement, il y en a beaucoup. Donc, il y a tout un travail aussi à faire d'un point de vue mental, mindset par rapport à ça. Moi, tu sais que j'aime bien les conseils concrets dans mon podcast. Là, il y a peut-être des personnes qui ont peur de prendre la parole en public et qui aimeraient, parce qu'elles savent que c'est nécessaire dans leur vie professionnelle, s'améliorer là-dessus et arriver à prendre la parole avec beaucoup plus d'aisance. Quels sont les conseils que tu leur donnerais? Quels sont les conseils peut-être que tu as donnés aussi à tes équipes commerciales quand tu travaillais chez Rouge Gorge, par exemple? Quels conseils tu leur donnerais pour oser enfin prendre la parole en public?
Alors, il n'y aura pas meilleur conseil que de se dire pour cette action très spécifique de parler en public que de le faire. Et là, on revient à notre situation de bébé qui apprend en marchant. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, il y a quand même 2-3 astuces, évidemment, parce qu'on ne va pas gagner en confiance tout de suite. Hein. D'abord, on va le faire avec la peur au ventre, et puis ensuite, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir gagner en confiance. Clairement, la première fois qu'on doit faire une réunion avec son équipe, une présentation de projet devant son boss, vendre un produit devant des partenaires, enfin, il y a 2 conditions, le fond, la forme. Donc, il faut, sur le fond, préparer clairement son intervention. D'abord, alors la préparation du fond, c'est quoi? C'est connaître clairement à qui je vais m'adresser, pourquoi je dois m'adresser à eux, et quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à dire. Ça, c'est déjà fondamental. Donc, on a ces objectifs en tête, pour qui, pourquoi et quoi. Ensuite, on prépare son intervention et on l'écrit. L'écriture, effectivement, elle permet... on n'a pas tous une mémoire photographique, mais quand même, on apprend en écrivant. Donc, on l'écrit et on l'écrit de façon très détaillée. Et ensuite, on se le répète. Et ensuite, on commence, une fois qu'on se le répète et qu'on l'a répété à voix haute plusieurs fois, on a les idées au clair sur ce qu'on veut dire. Et à ce moment-là, on écrit le squelette de ce propos. Donc on a écrit un propos très détaillé, qu'on s'est répété, presque on l'a appris par cœur, et ensuite on s'est écrit un squelette, les grandes lignes. Voilà. Parce que évidemment, on va pas pouvoir exposer un discours de cette manière, mais on a ensuite les grandes lignes. Donc ça s'est incrémenté dans le cerveau, on est au clair sur les idées, le fond de ce qu'on voulait dire, de la manière ensuite dont on va l'articuler, et après on écrit juste les grandes lignes. Et ensuite on s'entraîne. Alors on s'entraîne devant son miroir. Et ce qu'il faut, c'est le verbaliser à voix haute. Ça, c'est important, c'est qu'on ait à l'oreille sa voix qui résonne. On s'entraîne, si possible, devant sa famille, s'ils sont bien aimables de vouloir passer cette épreuve. Devant des amis, si c'est possible. En tout cas, on essaye d'avoir une ou deux personnes, effectivement, physiquement réelles, qui puissent écouter et donner un retour. Alors, donner un retour si on l'a demandé, attention, hein, parce que c'est pas possible. Et là, c'est très important, c'est vrai, faut que je le dise. Quand on s'entraîne, si on s'entraîne devant des personnes, à ce moment-là, on pose le cadre de dire « juste moi, je vous délivre, vous n'avez rien à me dire » ou alors vous ne me dites que ce qui va. Mais c'est pas possible, effectivement, de commencer à se prendre les critiques, sinon ça va continuer à travailler ce manque d'estime de soi.
C'est important ce que tu dis, tout à fait, oui.
Voilà, on répète. Et ensuite, il y a la forme, voilà. Donc une fois qu'on est vraiment clair sur ses idées, eh bien dans la forme, une intervention, ça se prépare. Donc on est au clair sur la logistique. C'est où, c'est quand, c'est comment, j'ai besoin de quoi, je me prépare pas la veille. Quand on est à l'aise, on peut le préparer le matin même si on veut, hein, c'est pas un problème. Et là, on parle vraiment de personnes qui ne sont pas à l'aise, qui sont pétrifiées, qui ont cet état d'anxiété, donc de cette phobie de la prise de parole, qui commencent à transpirer, qui ont le cœur qui bat à 100 à l'heure, qui commencent à perdre leurs moyens, même intellectuels, qui commencent déjà à avoir cette chaleur qui remonte. Donc ces gens-là, il faut qu'ils soient préparés. Je sais où c'est, je sais idéalement un peu l'espace dans lequel je vais intervenir. J'ai tout préparé, mes fiches, mes paperboards, visio, enfin tout ce qu'il faut. C'est cadré, voilà. On va pas du tout à l'aventure. Et ensuite, on a des techniques de respiration. Alors, il y a des techniques de respiration. Ça, c'est vrai aussi, qui permettent vraiment de, à l'instant T, de faire descendre l'état d'anxiété. Et quand ensuite on est au moment de faire sa présentation, ça, je pense qu'on le retrouvera dans tous les conseils qu'on pourrait lire, je suppose, c'est l'ancrage, c'est-à-dire vraiment utiliser sa sensation. Alors, soit c'est la vue, c'est-à-dire que je m'ancre sur, j'ancre mon regard sur un point fixe que je lâche pas. Soit c'est les deux pieds bien ancrés au sol, bien posés, et je sens la sensation de ce sol sous mes pieds qui me soutient, qui me porte, et on se rassure avec ça, pour pouvoir justement être focus sur ce qu'on va délivrer.
Écoute, excellent conseil, vraiment. Moi, je te rejoins effectivement sur le fait de préparer beaucoup et de préparer l'endroit où on va le faire, si c'est possible. C'est toujours déstabilisant de se retrouver à devoir faire une présentation en public et de pas avoir le paperboard dans la salle, de pas avoir les chaises au bon endroit. Enfin, il faut éliminer toute source de stress supplémentaire via la prise de parole. Voilà, il y a déjà le stress de la prise de parole. On est là pour éliminer toutes les autres sources de stress à côté. Donc, c'est important de préparer ça. Et ça arrive aussi qu'on ait à prendre la parole à des moments où c'est pas prévu. Quels sont les conseils que tu donnerais du coup à ce moment-là? Peut-être un, deux, voilà, peut-être pas tous les exemples par exemple que tu as donné ou tous les conseils que tu as pu donner, mais il y a des moments où ben on doit intervenir en réunion, en séminaire, ce genre de choses, et c'est pas prévu du tout, et on n'est pas à l'aise avec la prise de parole. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là qui, comme tu dis, vont d'un coup se mettre à stresser, à avoir le rouge qui monte au visage, la chaleur, etc., les mains qui transpirent? Sur quoi elles peuvent se rester focus pour pouvoir faire une prise de parole correcte et moins stressante?
Donc, on parle de personnes qu'on a prises au dépourvu, mais qui n'ont pas le choix.
Oui, complètement. Ouais, par exemple. Parce que ça arrive. Enfin, faut le reconnaître. Ça arrive. Et je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à des personnes qui ont horreur de prendre la parole en public. Mais malheureusement, la situation fait que ça arrive.
Oui. Alors normalement, effectivement, c'est tout l'intérêt de travailler dans des entreprises intelligentes, c'est qu'on aura identifié que ces personnes ne peuvent pas être prises au dépourvu et on ne les mettra pas en difficulté. Note pour plus tard. Mais quand ça arrive, alors, il y a un conseil technique qui est effectivement vite. Quand j'arrive sur une scène, mettons, j'ai mes deux pieds bien au sol. Et idéalement, je vais fixer une personne sympathique, c'est-à-dire qui nous met en confiance, voilà, qui va nous soutenir du regard. On sait qu'elle va elle va sourire, on sait qu'elle va être là pour nous. Même si, évidemment, dans une prise de parole classique, on est censé évidemment s'adresser à tout le monde et balayer du regard la salle. Mais là, on a besoin d'être rassuré, donc on se met dans cette bulle de confiance avec cette personne. Ça, c'est la première idée qui me vient. Et puis ensuite, on se mentalise très fort. Donc sur l'instant, si on vous dit vite, tiens, parle de ce sujet, non. Ok, idéalement, il faut être assez fort mentalement, mais en tout cas, se dire, bon, c'est moi, je sais. Ça veut dire que si on vous demande à vous, et pas aux voisins, c'est parce que c'est bien vous qui avez la connaissance, l'expertise sur ce sujet. Donc, essayez de garder un peu de cette confiance que quelqu'un manifestement vient de vous passer et de la garder sur scène jusqu'au bout en se disant je suis légitime et on se le répète.
Ok, ouais, super. Ouais, j'adore les conseils que tu as donnés parce qu'effectivement, c'est des situations qui ne sont pas évidentes. Et c'est toujours bien d'avoir voilà, quelques conseils au cas où ça arrive, qu'on puisse ne pas trop stresser par rapport à ça. Bah, écoute, super pour tous tes conseils liés à la prise de parole. Et c'est vrai que j'ai découvert tout un aspect que je ne connaissais pas forcément derrière. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a un autre conseil ou un autre élément que tu souhaites rajouter avant de peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc.
Alors, le dernier conseil, effectivement, c'était le premier que j'ai donné. En réalité, c'est de faire. Hein. Il n'y a pas meilleur conseil, en fait, pour se libérer sur la prise de parole que de prendre la parole. Alors, évidemment, c'est toujours facile quand on dit ça, mais on a beau s'entraîner devant son miroir, ça ne sera jamais pareil. Et donc, il faut aller au contact. Il faut aller, alors on peut aller dans des réseaux, on peut aller pitcher, parce qu'il y a de plus en plus sur Internet de groupes justement faits spécifiquement pour pitcher. Il y en a sur LinkedIn aussi, des groupes pour pitcher. Enfin, faut vraiment se confronter à cette situation en permanence. Et j'ai envie de dire que ça doit être probablement pour toutes les peurs pareilles. Mais il faut vraiment s'y confronter. Il n'y a pas, je crains, un meilleur moyen que de se libérer.
Ok. Très bien. Bon, la seule peur auquel on n'est pas obligé de se confronter, c'est la peur des araignées. Mais...
Attends,
ça, moi, celle-là, j'ai... moi, je ne veux pas m'y confronter à celle-là.
J'étais phobique, mais je ne le suis plus. Tu vois, ça marche.
Alors, tu me donneras ton astuce, hein, parce que alors, moi, c'est toujours pas réglé. Et hors de question que je mette une migale sur ma main pour arrêter ma peur de ça.
Ouais, enfin, je ne suis pas allée jusqu'aux migales, quand même.
Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, suivre ce que tu fais, etc.
Sur LinkedIn, où je suis la plus active. J'aime beaucoup lire des tas de posts et en poster quelques-uns, voilà, sur mon activité, le cœur autour du management, du leadership, de la prise de parole, et aussi des tas de sujets qui peuvent m'intéresser, notamment le cerveau humain, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Ouais, l'aspect cognitif et tout. Donc, c'est Priscilla Lenoir, hein, c'est ça?
Priscilla Lenoir, oui, merci Elodie.
Oui, je précise, mais il y aura bien évidemment le lien du compte dans les notes de l'épisode, hein, bien évidemment. Mais écoute, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
T'as amené plein de connaissances et plein de conseils, donc c'était super et je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes à se libérer de la prise de parole en public.
Eh ben, je
te remercie
souhaite.
Infiniment. N'hésitez pas à aller suivre Priscilla sur les réseaux. Merci à toi.
Bonne journée.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.